Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle balado à Brest où il pleut, mais bon, ça c'est pas très grave, hein. De temps en temps ça s'arrête. Et là, il y a Jean Lebrun qui sort du Quartz, la salle de spectacle de Brest. Évidemment qu'il est là pour le festival Longueur d'onde. Pour les rares qui ne le connaîtraient pas, il a animé sur France Inter pendant presque 10 ans la Tribune de l'Histoire. Il a eu le prix Goncourt de la biographie en 2014. S'il vous plaît, quand même. Et nous sommes où, là, Jean ?
Ben, nous sommes devant le cercle maintenant désaffecté. Il y a du vent, hein. Vous n'avez pas de bonnette ?
Si, si, vous la voyez, ma bonnette, Jean ?
C'est une chaussette, c'est pas une bonnette. nous sommes donc devant le cercle maintenant désaffecté des officiers de marine, où se rencontraient, jusqu'à sa fermeture récente, les officiers. Je ne sais pas si les femmes venaient beaucoup, parce qu'il y a un autre lieu pour les femmes des officiers qui doit encore fonctionner un peu, où par exemple elles viennent jouer au bridge.
Ah oui.
Donc ici, l'amiral de la préfecture maritime devait faire ses réceptions, j'imagine. Et après que ça a fermé, le Quartz, le centre culturel, la scène nationale, était en cours de réaménagement. Donc ce sont les théâtres qui se sont installés là. Et puis maintenant, la ville a racheté ce bâtiment. Bon, qui n'est pas une splendeur architecturale, non, mais qui recèle, paraît-il, de belles salles de réception.
Ah.
À bon entendeur, salut, si vous avez un mariage, une bar mitzvah, un baptême, je ne sais, moi.
Mais alors, tu sais tout ça parce que tu es en train de préparer une série sur, sur la mer pour
c'est
France Culture.
Que Brest m'intéresse. Je ne vais pas dire du tout ce que je prépare sur France Culture. Ou si je dis que ce sera de l'histoire maritime, il n'est pas sûr qu'elle se passe beaucoup à Brest. Mais peut-être, en effet. Oui, oui, peut-être. Oui, je compte d'ailleurs travailler à l'Académie de Marine à Paris.
Ah oui.
La bibliothèque et
Saint-Augustin, non, c'est pas ça?
Non, ça c'est le Cercle des Officiers. L'hôtel de la Marine, c'est Place de la Concorde.
Ah oui. Bien sûr. Ah voilà. Oui, d'accord. Oui.
Et donc là, il y a l'Académie de Marine, une auguste institution, et une bibliothèque où je compte en effet me faire introduire. Mais il faut des parrains.
Oh, bref. Je te fais confiance.
On va trouver, oui, oui.
Et alors, on vient de passer à la Saint-Valentin. Quelle est ta relation amoureuse avec la radio ?
Je crois qu'elle est venue, mais, enfin, comme nous tous, de notre génération, de la chambre d'ado. Du transistor et de la possibilité d'écouter, comme on lisait d'ailleurs sous les couvertures, la nuit, le soir venu et la nuit tard, la radio. Donc elle est venue de l'indépendance qu'on commence à gagner à 13-14 ans, non ? Quand on a une chambre. Donc moi c'était Radio Luxembourg que j'écoutais comme mes parents, mais simplement à d'autres heures que celles des parents.
Ah oui, alors qu'est-ce qu'il y avait comme émission ?
Il y avait un feuilleton qui s'appelait L'homme à la voiture rouge. Un feuilleton rebondissant. Donc le soir à 8h avec la famille, c'était la famille du raton, Jean Carmet et compagnie. Jean Carmet buvait du bon vin, les femmes étaient effacées et dévouées. 10 millions d'auditeurs. On n'arriverait plus à 10 millions d'auditeurs avec quelques radios que ce soit aujourd'hui.
Il faut savoir que France Inter, qui est la première, a 4 millions, je crois.
Voilà. Et alors, plus tard dans la soirée, c'était L'homme à la voiture rouge. Et là, c'était des aventures avec un héros, Playboy, qui courait la France. Mais pas comme toi en vélo, en voiture, de sport, décapotable.
Moi, je ne suis pas à vélo, je suis à pied, hein, je marche à pied.
Ah oui, tu es toujours à pied ?
Ah oui.
Je crois que tu faisais un peu de vélo.
Non, c'est vrai que je venais toujours à la maison de la radio à vélo, d'accord. Mais toutes mes diagonales et mon compostel, j'ai tout fait à pied. Ouais.
À pied, oui.
Ah oui, parce que tu te rends compte, tu vois, là, on est en train de marcher dans une rue humide de Brest et... c'est pas possible avec un vélo, alors que là, j'ai mon micro dans la main et...
Je te l'indiquerai bien le chemin de la gauche, là.
Ah bah vas-y.
Si tu le connais, c'est par là, le chemin de la gauche. Oui. Et on va arriver au Continental, où sont logés quelques hôtes du Festival Longueur d'onde, puisqu'on est à Brest pour le Festival Longueur d'onde. Et le Continental était un lieu très couru, quand il y avait une salle de bal, un dancing qui a fermé pendant 30 ou 40 ans et qui vient d'être réaménagé mais qui n'est pas rouvert en dancing. C'est un bar relativement chic avec des tabourets hauts, parce que maintenant on mange toujours sur des tabourets avec les pieds qui flottent. Bon, c'est mieux que les tables plus basses. Voilà.
Ça
s'appelle la place de la Tour d'Auvergne.
Et alors, est-ce que tu te rappelles des voix qui jouaient ce feuilleton de l'homme à la voiture rouge?
Non, je ne me rappelle pas des voix. Et puis je me rappelle des voix des jeux, notamment de celle de Zappimax.
Ah oui.
Alors Zappimax, j'ai fait venir ici à longueur d'onde il y a 15-20 ans, parce que je pensais que c'était pour les vieux de Brest une star. J'avais oublié une chose, c'est que Radio Luxembourg n'était pas capté ici à Brest. Et les émetteurs n'avaient pas suffisamment de puissance. Et Zappimax, il avait été une star d'une certaine manière, mais il n'existait que par la marque. Et donc un jour, Radio Luxembourg est devenu RTL, la famille Duraton a été arrêtée en plein vol. L'épisode suivant n'a pas eu lieu. Qui tout double a disparu, Zappimax est tombé aux oubliettes et il est devenu un petit cachetonnier très gentil, avec toujours un nœud papillon, sa petite moustache, le même accent, un chapeau, mais il jouait des classiques dans des salles paroissiales aux quatre coins de la province, et je me souviens de lui, on l'a conduit à son hôtel, un petit hôtel miteux, près du port, il avait son sac en plastique. Mais il était toujours sympathique, joyeux, chaleureux. Mais il avait perdu de vedettariat. Il n'y avait pas de vedette à la radio dans cette époque, même à cette époque. Même si on croyait que c'était des vedettes, elles pouvaient être brisées net par la transformation de la radio ou le renvoi. Quoi.
Mais Zappimax, il n'a pas animé un jeu sur RMC, le million?
Oui, je crois qu'il a rebondi parfois.
Voilà, je l'ai entendu dans
le rebondi
sud.
Parfois.
Comment t'es rentré à Radio France
Je suis rentré à Radio France par un
ami. Par la porte, tu vas me dire.
Non, je suis rentré à Radio France par un ami qui m'a recommandé à un autre ami. Et donc, j'ai collaboré occasionnellement aux premières matinales. Ça s'appelait matinale, d'ailleurs, tout court. Les émissions du matin n'ont pas toujours des titres géniaux. Hein. C'est pas...
Le 5-7.
Oui, c'est ça. C'est pas des émissions, des titres très rigolos comme on en trouve dans d'autres horaires. Et puis donc j'ai connu là Laurence Bloch et Laure Adler, qui faisaient leur début.
Ah oui.
Laurence Bloch portait des pulls en mohair, presque tricotés à la main, et Laure était déjà elle-même. Et j'ai fait ma première émission avec Laure, oui, avec Laure Adler.
Elle n'était pas encore directrice de France Culture?
Non, elle était à peine pigiste, enfin à peine permanente, demi-permanente, trois quarts pigiste, voilà.
Mais votre première émission, c'était sur quoi?
J'en ai un souvenir marquant, parce que il y avait une fille qui s'appelait Claude Dominique, qui avait une voix inimitable et qui disait des lettres de famille que les auditeurs envoyaient. Et moi, j'avais des lettres de famille chez ma mère, chez mes parents... Un grand-oncle marin de commerce qui avait envoyé la porcelaine de Chine qui était sur la desserte et qui faisait l'admiration de tous et plein d'objets de Shanghai notamment. Et donc il écrivait à sa famille. Et donc on a lu ça. Mais moi je crois que c'était une émission d'un quart d'heure, c'était une émission d'une demi-heure. Et puis Laure se faisait insistante, posait des questions sur la vie privée de ce monsieur. Et j'ai fini par dire la vérité, que je savais qu'il avait la syphilis, qu'il ne pouvait pas rentrer au village et qu'il s'est jeté dans la baie de Shanghai, du haut du pont. Oui. Ma mère avait convoqué le banc et l'arrière-banc de ses cousins, cousines, de toute la famille. Mon fils parlait à la radio pour la première fois et elle était absolument furieuse que le secret de famille, ce n'était pas le secret le pire de la famille, il y en avait bien d'autres, ait été révélé. Mes débuts... Je ne sais pas si Laure s'en souvient, mais elle était déjà très maligne dans l'interview.
Ah oui, j'imagine, oui. Et alors, aujourd'hui où tu es à la retraite, est-ce que la radio te manque?
Non, la radio ne me manque pas, mais j'ai encore mon badge d'entrée. J'ai négocié une sorte de statut d'émérite. Je vais à la bibliothèque, voilà. Quand il me manque quelque chose, je demande à mon ancien assistant qui va commencer à s'impatienter. J'ai déjeuné avec les uns et les autres. Bon, Adèle Vendrette me dit, mais on t'a jamais vu autant. Donc, je peux encore y entrer, quoi. Ça me fait plaisir d'y rentrer. Et je l'écoute beaucoup, sans arrêt. Voilà, constamment.
T'es venu à longueur d'onde, pourquoi ?
Parce que je viens par habitude depuis 20 ans.
T'as ton rond de serviette, comme on dit ?
Je viens depuis la Fondation, donc j'ai connu l'école des Beaux-Arts, le café d'en face, où on faisait des émissions. J'ai connu les Capucins au bout du téléphérique, là, au-dessus de l'Appenfeld. Et puis j'ai connu, bien sûr, le Quartz. Non, puis c'est des copains. Depuis, voilà, et la rédactrice en chef, la programmatrice du festival, est une ancienne de mon équipe qui a préféré s'installer en Bretagne plutôt que de rester à Paris. Anne-Claire Lenné, à qui il faut rendre hommage parce qu'elle fait ça de main de maître.
Et alors, tu disais que tu étais en train d'écrire un livre un peu personnel.
Oui, ça s'appelle, j'ai le titre, ça s'appelle « La guerre dans la tête ». Les gens de la Deuxième Guerre que j'ai connus et admirés, et à partir de nos rencontres, je raconte des choses auxquelles ils auraient été mêlés. Et puis j'essaye de les mettre en relation les uns avec les autres, et ça fonctionne assez bien. Je ne pensais pas qu'ils se connaissaient les uns les autres, mais en fait, souvent, ils se connaissaient. Donc il y aura des personnalités qui seront généralement des personnalités chrétiennes, mais assez hautes en couleur. Je réfléchissais tout à l'heure, mais je ne vais pas la mettre en scène, parce que à une femme qui t'aurait beaucoup plu, qui s'appelait Mère Marie-Yvonne, et qui était basée chez les Augustines Malestroy, et c'était une grande résistante, elle a caché et sauvé beaucoup de juifs et de résistants, et elle était douée du don de bilocation, c'est-à-dire qu'elle pouvait être dans un local de la Gestapo, serrée de très près, dans le métro en même temps.
Ah oui ?
Voilà, mais je vois que ça t'intéresse comme personnage, mais je ne l'ai pas connue, alors je vais avoir du mal quand même à l'introduire, parce que la règle, c'est des gens que j'ai connus.
Ah oui.
Voilà.
Celle-là, on t'en a juste parlé ?
Voilà, où j'ai lu un livre sur elle, voilà. Non, mais il y aura Elisabeth de Miribel, celle qui a tapé l'appel du 18 juin, et dont paraît-il, mais ça, j'en ai pas le souvenir. Le code à l'entrée de son hôtel à Paris, c'était, elle habitait un hôtel particulier, 180640. Tu vois. Voilà, il y aura Daniel Cordier, que j'ai connu sous un angle qui n'est pas celui qu'on montre d'habitude. Et puis il y aura mes vieux maîtres en histoire, dont les noms ne sont pas très connus, mais pour moi glorieux, Henri Maroux, Alphonse Dupron, enfin, qui ont été des gens extraordinaires.
Daniel Cordier, c'est-à-dire qu'on le montre toujours comme le secrétaire de Jean Moulin, et toi tu...
Il se montre aussi comme son autobiographe, parce qu'il publie, il a publié ses mémoires.
Oui.
Le dernier volume, Amateur d'art, sur son travail de galeriste et de marchand d'art, vient de paraître. Mais moi, je l'ai connu sous un angle...
C'est celui-là que je voulais savoir quel est.
Sous un angle drôle, quoi. Enfin,
ah oui.
Un hôte drôle, un vieux monsieur très rigolo, très imprévisible, très extrémiste. Bon, je vais montrer Daniel Cordier qui vote pour Olivier Besancenot, par exemple.
Enfin, ah oui. Bon,
voilà, oui. Ou qui va... il habitait un quartier sécurisé de la Côte d'Azur, au milieu de villas d'oligarques russes. Et il allait à pied, il saluait le gardien, et il allait acheter Rosette de la Légion d'honneur à la Boutonnière, guépier, par provocation, chez le marchand de journaux de Jean Lépin. J'ai connu un homme facétieux, très drôle. Hein, très, voilà.
Qu'est-ce qui te rend heureux, Jean ?
Ce qui me rend heureux, comme toi, ton fils, j'imagine, c'est d'avoir retrouvé depuis peu d'années, 2 ans, un filleul perdu de vue. Et qui fait mon bonheur parce que j'ai pas eu de fils, moi, j'aurais pas su l'élever, ça aurait été une catastrophe. Et là, j'en ai touché un tout fait, grâce à sa mère. Il était à La Réunion, il est rentré en métropole, il a toqué à la porte et on s'est très bien entendu. Voilà, et donc il fait des études de cinéma, il n'a pas les mêmes goûts que moi, mais on parle beaucoup, très intimement, et de choses qui ne sont pas pondérables, qui ne sont pas fondées sur l'argent, la carrière, mais qui sont fondées sur le goût de l'art, de l'esthétique. Donc c'est un grand bonheur pour moi. Et ça me tient maintenant beaucoup à cœur. Tu vois ?
Je comprends. Voilà. Tu avais cette frustration de ne pas avoir pu transmettre tout ton savoir.
Bon, c'était même pas une frustration, c'était même pas une volonté de transmission, mais j'aime bien l'exercice de transmission, voilà. Et alors, comme j'ai plus d'enfants à la radio, j'avais plein d'enfants à la radio, je les revois ici à Brest.
Donne des noms un peu de tes enfants à la radio.
Je sais pas, il y a Voinchet qui est là, il y a Laurentin.
Voinchet.
Il y en a beaucoup d'autres, beaucoup plus jeunes aussi. Enfin bon. Il y a une fille qui s'appelle Sophie Berger qui venait tout le temps à l'émission quand elle était en public et elle est venue m'apporter son premier roman, là, publié chez Gallimard, tout ça. Donc c'est comme si je l'avais publié moi aussi, quoi. Il est là dans mon sac et je vais le lire de ce pas. Je cherche la page où, paraît-il, apparaît le fantôme de Lebrun.
Ah !
Alors le livre s'appelle Bande Brume. Nous sommes tous, comme on disait à l'intretat, nous sommes tous des naufragés dans le brouillard à la recherche de signaux.
C'est très beau ça. Attends, je vais faire une photo de toi si tu veux, avec la lumière du jour.
Voilà.
Alors, dis donc, il y a une photo. Hey, tu veux pas te mettre devant la pancarte Zazou là ? Ça, je trouve ça assez rigolo.
Non, à l'époque.
Tu vois ? Attends, c'est bon, là on entend les mouettes.
Mais pour la photo, c'est pas utile.
Non, mais je rejetais quand même. T'as pas été Zazou toi ? T'es trop jeune.
Je suis trop jeune, oui, voilà. Absolument. Je sais pas si j'ai arrêté Zazou.
Ouais.
Il fallait beaucoup de courage pour être Zazou.
Bon, mais alors, Jean Lebrun, vous êtes quand même né à Saint-Malo, ça, on n'en a pas parlé.
Oui, je suis né à Saint-Malo, camarade, franchement. Et c'est pas n'importe quoi, Céline disait, c'est une ville que je me souviens. Parmi les plus belles pages sur Saint-Malo, on cite Chateaubriand et d'autres, bien sûr. On cite pas Céline parce que il est d'une réputation peu recommandable, mais il a très très bien écrit sur Saint-Malo.
Et tes parents faisaient quoi à Saint-Malo ?
Mes parents ont été... Les non-héritiers d'une petite exploitation d'horticulture, primeur, et puis café. Ma grand-mère tenait un café, et mon grand-père picolait pas mal. Et il me faisait faire la tournée de toutes les autres buvettes du village. C'était à côté de Saint-Malo. Il y avait 20 ou 30 ou 40 cafés. Dont une bonne dizaine sur la place. Voilà.
Et tu continues à aller à Saint-Malo ?
Ah oui, je continue à aller à Saint-Malo. Je suis de près le devenir du café, parce que c'était le café PMU, du village qui s'appelle Saint-Méloire-des-Ondes. Et il a fermé, et personne n'a voulu le racheter. Il y a eu deux ventes aux enchères, sans succès. Et la mairie l'a racheté pour en faire un espace de coworking, avec un jardin partagé à la place de l'exploitation horticole. Je trouve ça extrêmement drôle.
Ah oui.
Sauf qu'ils n'arrivent pas à rassembler les fonds pour mettre en route les travaux ou pour les achever. Mais que le café du Grand Jardin devienne un espace de co-working avec jardin partagé, c'est tellement significatif de l'évolution du monde contemporain que ça me fait rire.
Mais pourquoi ? C'est plutôt...
C'était un café à sous l'eau, tu vois, c'était un café à sandwich,
oui.
À pain, à mode de pain, à mode de beurre, à gros pain, voilà.
Ouais.
Et la grand-mère tenait ça d'une main de maître. Et maintenant, un espace de coworking, c'est drôle. Mais il faut dire que dans le village, il y a maintenant un immeuble, tout près du café. Et puis il n'y a plus de commerce parce que tout le monde va dans les supermarchés sur le chemin de Saint-Malo. Voilà.
Bon, Jean, je te remercie pour cette petite balado dans Brest. Et je te souhaite beaucoup de créativité dans ton écriture.
Et on t'écoutera en balado-diffusion, c'est ça ?
Voilà. Salut, Jean.
Salut.
Et c'est ici que va se terminer cette balado. Je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle balado. Mais d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao !
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.